Donc, Vaïdaber Hachem El Moshe, de Har Sinai, les mots. Hachem parle à Moshe Rabbeinu sur le Sinai. Et il lui dit d'abord El Bnei Israël, parle au Bnei Israël vers Marta Lehem, tu leur dis, quand ils vont arriver en Eretz Israël, qu'Hachem leur donne. Alors, Meshavta Haaretz Shabbat Lachem. Alors, la terre devra faire un Shabbat, elle devra chômer ou faire Shabbat, qui est un Shabbat Lachem. Et puis, on explique, donc, pendant 6 ans, tu pourras semer, pendant 6 ans, tu pourras aussi élaguer ta vigne. Et tu pourras récolter ta récolte. Et la 7e année, c'est une année de Shabbat pour la terre, Shabbat Lachem. Et donc, on ne pourra rien faire de tout ce qu'on a dit que tu pourras faire toutes les autres années. Et donc, cette année-là sera vraiment une année où les choses seront complètement différentes et le rapport à la terre va être complètement différent. Et tu vas compter 7 septaines, 7 fois 7 ans, et puis l'année d'après, donc ça va faire 49 ans, et tu vas à ce moment-là, l'année d'après, on va sonner du shofar, en fait c'est à Yom Kippour. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va sanctifier cette 50e année et on va publier la liberté sur la terre pour tous les habitants, mais en fait, ça touche surtout les esclaves qui vont être libérés. Et c'est ce qu'on appelle le Yovel. À ce moment-là, les gens vont retrouver leur terre patrimoniale. Chacun va se retrouver, les Avadim vont être libérés, vont retourner vers leur famille, etc. Donc, c'est l'essentiel de ce qu'on va voir dans cette paracha de Béhar. On parle de Shemitah et Yovel, d'années sabbatiques et d'années jubilaires, donc... Alors, c'est décrit avec les dinim spécifiques. Alors, on va s'arrêter un peu sur ces choses-là. On va regarder d'abord premier sujet, disons. Le premier sujet, bien sûr, c'est que, comme c'est une question qui a... devenu tellement célèbre qu'on demande Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinai, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les dinim de Shemitah sont dits au Sinai? Pourquoi est-ce qu'il y a une raison particulière pour que ce soit cette mitzvah-là qui soit dite au Sinai? En vérité, on sait que toutes les mitzvot ont été dites au Sinai, donc pourquoi est-ce qu'on parle de celle-là comme étant la mitzvah qui a été dite au Sinaï. Donc, quel est le lien entre la Shemitah et le Sinaï? Bon, c'est ce que Rashi dit. Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinaï. Alors, kol ha-mitzvot ne'emru mi-Sinaï. Toutes les mitzvot ont été données au Sinaï. Donc, pourquoi la Shemitah est dite ici? C'est pour nous dire que de la même manière que la Shemitah, toutes les règles générales et aussi tout le détail des règles de la Shemitah ont été données au Sinaï. Et il en va de même pour toutes les mitzvot. Elles ont toutes été données non seulement, comme on pourrait dire dans leur généralité, mais dans tous leurs détails. Alors déjà, le texte commence de façon un peu surprenante parce que c'est marqué dans ce que je viens de vous lire ici. Daber el bene Israël ve amarta alehem. Tu leur parles et tu leur diras. C'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire Daber et aussi ve amarta. Qu'est-ce que c'est que cette double présentation des choses? Alors, je vais vous rapporter là ce que dit le Rav Hofstetter là-dessus. Ça m'a bien plu. Ils vont d'abord réfléchir sur le Sinaï, comme on est dans la préparation de Shavuot. C'est tout à fait adéquat. Donc, puisque la paracha fait référence au Sinaï, on va aller regarder un peu, remémorer un peu de quoi s'agissait-il quand on parlait du Sinaï. On sait que quand les Bnei Israël sont arrivés au Sinaï, après les jours de préparation, qui depuis Pessah jusqu'à ce qui va devenir Shavuot, ils ont campé au pied de la montagne, le Tartit Ahar, sous la montagne. Et là-bas, tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on nous dit que Vaïtiasvou, Betartit Ahar, au-dessous de la montagne? De là, on apprend que Melamech Kafa, Kadosh Boko Alem et Ahar, Kididit, Kadosh Boko a mis, il a retourné la montagne sur eux comme un. Comme en fait une ruche, mais ou comme un tonneau, si vous préférez. Si vous acceptez la Torah, c'est très bien. Mais sinon, c'est là-bas, dans cette surface de la terre limitée par la montagne. Vous imaginez, vous prenez un verre et vous le retournez sur la table. Donc, le verre détermine une certaine surface qui est recouverte par le verre en question. Hachem a dit, si vous n'acceptez pas la Torah, c'est dans ce domaine-là que vous serez enterré. Alors, Chazal demande, pourquoi est-ce qu'Hachem a retourné la montagne sur eux? Quand Moshe leur a demandé est-ce que vous voulez accepter la Torah ou non, ils ont dit d'un sévénichma. Ils ont dit oui. Mais pourquoi est-ce qu'il faut les contraindre? Ils ont déjà dit oui. La contrainte, ça s'impose éventuellement quand, ça a un sens quand quelqu'un dit non, je veux l'obliger, alors je peux essayer de le contraindre. Mais s'il a déjà dit oui, pourquoi est-ce que c'est que cette contrainte? Alors, évidemment que si maintenant on dit que la volonté des Bnei Israël n'était pas vraiment sincère, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas vraiment accepter la Torah et qu'on a dû la leur imposer avec cette contrainte-là, à ce moment-là, évidemment, sous la contrainte, ils l'ont acceptée. Alors, en fait, pourquoi est-ce que on fait tout un plat de « Ah, extraordinaire, les Bnei Israël, ils ont dit Naase, Venishma » et tout. Si en vérité leur Naase, Venishma n'était pas sincère, puisque la preuve c'est qu'il faut ensuite les contraindre, pour faire un plat de quelque chose qui n'était pas sincère. En plus, on fait vraiment l'éloge de cette réponse de Naase, Venishma, puisqu'on dit que Hachem a dit « Mais qui est-ce qui leur a dévoilé ce secret dont les anges font usage, etc. » Alors, il propose de dire la chose suivante. Bien qu'effectivement, les Bnei Israël, c'est sûr, ils voulaient prendre sur eux le joug, comme on dit, de la Torah. Bien sûr. Accepter la Torah, les mitzvot, bien sûr. Néanmoins, la raison pour laquelle il était nécessaire de leur imposer, de leur appliquer cette contrainte, c'est que dans l'acceptation de la Torah, Bon. Il y a un problème. Parce que quand les choses, quand on arrive à la situation où il faut appliquer concrètement ce qui a été accepté, alors peut-être que celui qui a accepté, tout à coup, il se dit, mais c'est pas si facile que ça. J'avais accepté, mais je me suis pas rendu compte de la difficulté. Et peut-être que maintenant, il se dit, ben, finalement, j'ai eu tort. Je décide que j'avais pas bien compris, je me suis engagé à quelque chose, à une chose à laquelle je ne peux pas, je peux pas être à la hauteur de cela, donc j'arrête. J'arrête mon accomplissement de. Je ne réalise pas ce que j'avais accepté parce que j'ai pas bien compris en fait. J'ai pas compris qu'il y aurait une telle difficulté. Donc, Kadosh Baruch Hu est venu aider les Bnei Israël en leur imposant cette kfia, cette contrainte-là, de telle sorte que si jamais ils ont un moment où ils ont tendance à fléchir, à faiblir, à se dire non, c'est finalement trop difficile, voilà, maintenant tu t'es coincé parce que tu l'as accepté, maintenant il y a une dimension de contrainte. Donc tu peux pas te dédire, c'est pas, tu peux pas te dire mais je l'acceptais de mon plein gré, maintenant je change d'avis. Je peux changer d'avis. Non, tu l'as pas accepté de ton plein gré, tu as été contraint et donc tu peux plus te dédire. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est pas que les Bnei Israël ont accepté la Torah à leur corps défendant. Pas du tout. Ils l'ont accepté de tout cœur, si on peut parler comme ça. Maintenant, l'histoire de la montagne qu'on a retournée sur eux pour leur faire peur, effectivement, ça vient les aider si jamais il y a un moment où ils n'ont pas la force d'être à la hauteur de ce à quoi ils se sont engagés. Voilà, maintenant, on ferme la possibilité de se rétracter. Donc c'est une forme de chesed, générosité de la part d'Hachem, qui en fait vient dire à l'homme, tu n'es pas tout seul, je vais t'aider à faire ce que tu veux faire. Au profond de toi-même, tu veux le faire, c'est pour ça que tu t'es engagé, maintenant il y a une difficulté, tu n'avais pas compris, peut-être, bon, maintenant tu ne trouves pas l'énergie pour surmonter cette difficulté. Je vais t'y aider. Alors, la contrainte, elle vient aider. De la même manière, on peut expliquer ce problème qu'on avait soulevé. Daber el Bnei Israël, ve'amarta alehem. Parle et tu leur diras. Pourquoi cette double parole, en fait, c'est qu'en fait, la mitzvah de la Shemitah, c'est une des mitzvot difficiles. D'abord parce que c'est difficile à un propriétaire d'abandonner en quelque sorte son statut de propriétaire, qui est toute sa parnassa, et en fait, permettre à monsieur tout le monde de venir grappiller dans son champ, etc. C'est sûr que c'est très très difficile. Et les Chachamim disent que les gens qui sont capables de pratiquer la Shemitah, donc de pratiquer l'année sabbatique à ce niveau-là, ils sont appelés Giborei Koach. Des gens qui sont des giborim, des gens qui ont beaucoup de force.
Non, mais pour l'instant, il peut rester juste ce
point. Voilà, donc là, le Midrash dit clairement, il dit, un homme, il voit que son champ est devenu efker, quoi, que les arbres aussi sont efker, les gens viennent et se servent, etc., que les barrières sont pas défoncées, mais il avait mis des barrières à son champ et on passe par-dessus les barrières, ou on ouvre les barrières, il voit que les fruits de son champ, de ses arbres, etc., sont mangés, et il faut qu'il prenne sur lui, et il ne dit rien, il ne proteste pas. Alors, les Rachamim disent, Ezeu Gibor, Akobeshet Yitzro, comme on dit dans Pirkei Avot, le Gibor, c'est celui qui maîtrise son Yetzer Hara, ou son Yetzer, hein, c'est tout cette tendance tout à fait naturelle, tout à fait normale, pratiquement, qui est d'avoir du mal à voir tout le travail qu'il a fait, etc., qui est utilisé par les autres, qui eux n'ont rien fait. Et donc on peut dire que c'est ça la raison pour laquelle la Torah, quand elle vient nous donner cet ordre de Shemitah, elle juge nécessaire de doubler la mise, en fait, quelque sorte, pour bien dire à l'homme qu'elle lui enseignait. C'est sûr que c'est très difficile, mais sache que c'est impératif, quoi. Quand je te le dis, c'est comme si je te le dis sous tous les tons. Le ton du dibour, d'une parole dure, et je te le dis aussi sur une parole douce, de Amira, mais en tout cas, ne te laisse pas avoir, ne cède pas à ton Yetzer Hara, parce que bien que ce soit effectivement difficile, mais tu as l'obligation d'être à la hauteur de cette mitzvah que tu dois accomplir comme elle est écrite, effectivement. Donc la Torah, il faut dire ici comme ça, la Torah est la, comme on dit, Yarda Torah, le Sovdato chez la dame. La Torah, elle a bien compris à qui elle s'adressait. Elle savait que, bien sûr, que celui qui craint la parole d'Hachem, il veut bien sûr bien faire. Néanmoins, il y a des moments où on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Et c'est ça cette double parole, en fait, qui joue le rôle de coup de pouce supplémentaire. Un peu comme la Kfiat à Har, comme le fait de retourner la montagne, joue aussi le rôle de coup de pouce supplémentaire. Et on peut aussi penser que c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit que cette mitzvah-là, elle a été dite au Sinaï, alors que c'est vrai de toutes les mitzvot, mais pourquoi est-ce qu'on prend cet exemple-là comme le modèle de la mitzvah qui a été dite au Sinaï et sous toutes les formes, c'est-à-dire avec tous les détails, pas seulement les grandes lignes de la mitzvah, mais tous les détails. Donc là aussi, la Torah, elle vient mettre l'accent sur le fait que c'est sûr que le Har Sinaï, HaKadosh Baruch Hu a permis au Bnei Israël d'exprimer toute leur force et toute leur volonté. Ils ont tout ce qui était potentiellement en eux, ils ont pu l'exprimer. Et bon, ça, ils ont pu le faire. Et néanmoins, avec la Kfiya, en les obligeant aussi, en leur mettant cette contrainte, alors même cette mitzvah de Shemitah, là-dessus aussi, il y a donc cette Kfiya qui est dite là, pour aider l'homme à réaliser sa volonté. Il a dit « Na'ase v'nishma », donc ça c'est ce qu'il voulait profondément, et après évidemment, des fois aussi on a pris de bonnes résolutions, et puis là, ça m'a l'air trop difficile, alors je serai pas à la hauteur, je vais t'aider à rester à la hauteur avec la Kfiya. De là, on peut comprendre un petit peu quelque chose qui est très important dans les forces d'âme de l'être humain. Très souvent, même si l'homme a effectivement une volonté, il a un désir de s'élever, d'avancer dans sa Avodat Hashem, il prend sur lui très sincèrement de s'améliorer dans tel et tel domaine. Néanmoins, quand les choses arrivent, le maasé, concrètement, ben, il n'a pas obligatoirement la force, pas toujours la force d'être à la hauteur. Et c'est une épreuve. Et bon, c'est une épreuve. Donc, on est dérangé pour faire vraiment ce à quoi on tient. Et donc, l'homme qui veut être sûr de réaliser ses bonnes intentions, s'il veut vraiment arriver à un haut niveau, c'est ce qu'il veut, mais qu'il sait très bien qu'il y a des épreuves qui vont être un peu difficiles ou trop difficiles. Et alors là, il faut bien prendre la mesure. Il y a ce qu'on veut faire et il y a ce qu'on peut faire sans coup de pouce, quoi. Ce qu'on saurait faire. Et il y a une différence. Et donc, la différence qu'il y a entre la théorie et la pratique, en réalité aussi. Eh bien, il faut qu'il l'utilise. L'homme lui-même doit essayer d'utiliser des moyens pour effectivement réaliser réellement ses aspirations. Alors maintenant, ce que la Torah vient nous dire en réalité, c'est que si on fait vraiment attention à ça, on s'aperçoit bien que Kadosh Baruch Hu nous aide. Simplement, il faut ouvrir les yeux et voir l'environnement, voir que là, il y a de l'aide d'Hachem. Maintenant, quand l'homme peut lui-même se mettre des barrières pour aider, à faire les choses, mais bon, il faut, au coup par coup, en fonction, ça, on ne peut pas le dire de façon générale. Chacun sait, si je suis confronté à ce problème-là, j'aurais du mal. Donc, il faut prendre des mesures. D'accord? Si je sais que, confronté à cette situation-là, j'aurai du mal, peut-être qu'il faut trouver une solution qui soit telle qu'on ne soit pas confronté à cette situation-là. Peut-être qu'il faut faire un détour, pas passer par cette rue, pas passer par cette salle, pas répondre à cette invitation-là, ou y aller, avec des conditions, etc. Ben, quelqu'un qui vous aide, qui peut vous dire, là, non, fais attention, mets pas les pieds ici, etc. Donc ça, c'est une leçon que la Torah nous donne avec cette idée de Sinaï. Et le Sinaï, ça fait référence à la kfiya, à la contrainte. Et la contrainte doit être entendue comme un chesed qu'Hachem nous fait pour nous aider à être à la hauteur de ce que nous voulons réellement faire. Donc maintenant, on a vu que effectivement, ceux qui font ces choses-là, ceux qui font cette mitzvah de Shemitah, sont appelés Gibor et Koach. Alors, d'un côté, alors, c'est intéressant parce que cette notion de Gibor et Koach, le Midrash dit la chose suivante. Gibor et Koach osé dvaro, ça c'est donc un pasuk dans Tehilim. Ravuna, Tana, Beshem, Ravacha, Amar. Donc lui, il a enseigné au nom de Rav Acha et il a dit qui sont les Gibore Koar au Sedvaro? Qui sont ces gens pleins d'énergie, ces costauds en quelque sorte, ces forts, qui font la volonté d'Hachem? Alors une première lecture, c'est Elo Israël, Sheikdimu Asiya Leshmiya. Bon, c'est dit, qui sont ces gens-là? C'est les Bnei Israël qui ont eu la force de dire Naase d'abord et Nishma après. Cette grandeur de s'engager à Naase d'abord et Nishma après, c'est une première chose. Et le Midrash rapporte une autre opinion, qui dit, celle de Rabbi Yitzhak Nafra, qui dit non, c'est Elou Shomre Shmit. C'est ceux qui respectent la Mita. Année sabbatique. Et c'est nos maîtres ont dit justement qui est le Gibor, c'est celui qui maîtrise son Yetzer. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que ce Midrash met sur le même plan en quelque sorte les Bnei Israël quand ils disent Naase Venishma et les Bnei Israël quand ils pratiquent la mitzvah de Shemitah. Ok, maintenant. Il reste toujours une grande question. Pourquoi est-ce que c'est la mitzvah de Shemitah qui a été choisie ici comme étant le modèle de toutes les autres mitzvot pour nous dire que toutes les autres mitzvot, elles aussi, ont été dites, enseignées au Sinaï, comme je vous ai dit, non seulement dans les grandes lignes, mais dans les plus petits détails. Pourquoi la mitzvah de Shemitah? Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, cette mitzvah de Shemitah? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre une autre mitzvah? Donc il faut qu'on explique pourquoi c'est celle-là qui a été choisie. Il y a 613 mitzvot. Pourquoi est-ce que c'est celle-là qui a été choisie? Alors, on va s'appuyer justement sur ce Midrash qui a mis un peu à la même hauteur les Bnei Israël qui ont accepté la Torah en disant Naase Venishma et les Bnei Israël qui pratiquent la mitzvah de Shemitah. D'accord? Donc, c'est la même chose. Tous les deux, ici, sont appelés Gibore Koach, Osei Dvaro. Des gens très très forts, très costauds, qui font ce qu'Hachem a dit de faire. Avec ce qu'on vient de dire concernant justement la difficulté de la mitzvah de Shemitah, en fait, ce passouk-là, il y a donc des Amoraïm qui ont mis justement en parallèle, c'est pas actuel, etc. C'est des Amoraïm déjà, dans la Gemara, qui ont mis sur le même plan ceux qui pratiquent la Shemitah et les Bnei Israël au Sinaï. Alors, ok, très bien, on voit que c'est très important, mais pourquoi? En quoi est-ce que, d'accord, c'est joli, mais en quoi est-ce que cette mitzvah-là est la seule qu'on a jugée, si vous voulez, assez importante, assez difficile pour être mise sur le même plan que Naase Venishma? Il y a beaucoup de mitzvot qui demandent beaucoup de force. Toute la avoda du Yom Kippour, ça demande une énergie absolue, que fait le Kohen Gadol par exemple. Kibud av va'em, si on veut vraiment la faire, ça demande beaucoup d'énergie. Ben, le clan d'Israël, il a fait la mitzvah de faire la guerre contre Amalek, ça a aussi demandé beaucoup d'énergie. Pourquoi est-ce que c'est pas celle-là qu'on met en évidence? Et si c'est parce que cette mitzvah-là, de la Shemitah, elle dure toute une année, donc ça veut dire c'est difficile et en plus ça dure très très longtemps, ben, il y a aussi d'autres mitzvot qui durent toute l'année, comme on a vu, on a cité Kibbud Av V'Em, mais l'interdit de voler, c'est aussi une mitzvah qui dure toute l'année. Pourquoi ces gens, les gens, quelqu'un qui fait très attention de ne pas voler en, avec toutes les halakhot, c'est de même pas utiliser juste une petite chose, l'autre est sûrement d'accord, tout ce que vous voulez, tous ces arrangements qu'on prend, d'accord? C'est une mitzvah, faire attention à ne pas voler. C'est aussi une mitzvah qui dure tout le temps. Donc, Hazal nous ont, en fait, donné une nouvelle définition ici, dans ce qu'on appelle la Gvura, Gibore Kor. Qu'est-ce que c'est la Gvura? Qu'est-ce que c'est que la puissance, la force? Nous, on a toujours l'impression que Gvura, c'est Kor, c'est la même chose. Gvura, c'est la force. Qu'elle soit une force spirituelle ou physique, peu importe. Mais peut-être que c'est pas comme ça. Peut-être que Gvura veut dire Mesirut Nefesh. Peut-être que Gvura, ça ne s'applique que si on est allé aussi loin que Mesirut Nefesh. Prêt à se sacrifier pour. Donc, c'est quelqu'un qui se donne entièrement, il donne toute son énergie, il se donne entièrement pour la chose en question. La Mesirut Nefesh, c'est plus que la Gvura du Kohar, en fait. Parce que celui qui s'en remet à son Kohar, sa Gvura n'est pas complète, puisque il ne peut pas, si vous voulez, pour vraiment se battre, il faut qu'il pense en tout cas qu'il peut gagner, parce que sinon il ne va pas y aller. Mais si jamais il lui passe la tête qu'il pourrait peut-être perdre, ben, a priori il s'en va. Il ne va pas se battre s'il est sûr de perdre. Donc sa Gvura n'est pas complète. Par contre, celui qui, quand il fait la guerre en quelque sorte, y compris quand il n'est pas sûr de gagner, il est prêt à risquer sa vie pour la chose. On voit que c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Ça, c'est le véritable Gibor. Parce que il va jusqu'au bout, il même plus loin que ses propres forces. Donc, la Mida de Gvura, si on l'entend en termes de Mesirut Nefesh, appliquée donc au mitzvot d'Hachem, on la trouve justement dans la mitzvah de Shemitah. Il y a beaucoup de mitzvot qui nécessitent beaucoup de force et une très grande volonté. Par exemple, les gens qui naturellement ont des difficultés à dépenser l'argent, mais qui se forcent et qui se maîtrisent et qui arrivent à, malgré la difficulté que ça représente pour eux, ouais, ils donnent de l'argent à la tzedaka. Alors que bon, naturellement, ils ont du mal, ils sont plutôt radins. C'est sûr que c'est une grande puissance de se maîtriser à ce point-là. Mais c'est pas encore Mesirut Nefesh. Parce qu'il sait très bien ce qu'il y a devant lui. Il sait très bien combien il a donné, il sait combien il lui reste, etc. Mais dans la Shemitah, le propriétaire du champ, en fait, il abandonne sa parnassa, son champ, et il permet à n'importe qui de venir et se servir dans son champ. Il ne sait pas ce qu'ils vont lui laisser. Peut-être, ça voudra dire qu'il va peut-être avoir faim, peut-être qu'il va avoir un problème. Lui, sa famille. Et malgré tout, il laisse faire. Donc, tout son futur, en quelque sorte, il le fragilise pour l'accomplissement de cette mitzvah. C'est pour ça qu'on l'appelle Gibboré Koach. Vraiment, lui, il est vraiment Gibboré Koach. Alors, cette Gvoura, c'est pas quelque chose qui appartient au clan Israël, en fait, cette vraie Gvoura. Cette vraie Gvoura, elle existe dans le monde des Malachim. C'est la Gvoura des Malachim. Parce que le Malach, il se donne entièrement pour la gloire divine. C'est marqué Ken Naros Besot Doshim Rabba, Rabbi Avraham Ben Agra, le fils du Gaon de Vilna, il a expliqué ce verset, que cette louange, ce compliment, porte sur la Messirut Nefesh. Parce que le Lachon de Harutz, c'est Efker Gufo Negedanola. Ça veut dire, il abandonne complètement son corps pour son maître. C'est Avadim Anemanim, Smashlechim Nafsham Minegdam, Litmor Osher Adonéem. Ça, c'est ce que. C'est-à-dire que les vrais serviteurs, ils se sacrifient complètement pour leur maître. En fait, dans la Kdusha, quand on dit Naritzcha, le Nagdishcha, le Naritzcha, il fait référence à ça, ça veut dire, nous sommes prêts à être Moser Nefesh pour toi et pour te sanctifier. Et ça, c'est une démarche donc des Malachim. Et c'est pour ça que on dit de ceux qui respectent la Shemitah, qui sont Moser Nafsham et leur futur, pour l'accomplissement de la mitzvah, pour ça qu'ils sont appelés vraiment Gibboré Koach. Toute la paracha, elle tourne autour de Shemitah et Yovel, comme je vous ai dit. Mais pour être sûr d'en parler, avant de continuer de parler de Shemitah et Yovel, je vais remarquer la dernière chose qui est dite dans la paracha de Behar, qui est un peu surprenante en quelque sorte. Tout à la fin, si vous allez voir le dernier verset de Parshat Behar, il dit Et Shabtotai Tishmoru, Umigdashi Tirao, Ani Hashem. Vous garderez mes Shabbatot et vous vous conduirez avec le Beth Amigdash avec de la Yira, donc vous respecterez effectivement le Beit HaMikdash, la Yira, hein, Ani Hashem. Je suis Hashem. Bon, évidemment que la question vient, hein, qu'est-ce que ça vient faire ici là? On a parlé de la Shemitah, d'Yovel, bah, tout à coup Shabbat et Moré Mikdash, pourquoi? On peut l'expliquer un peu de la manière suivante. Le Sforno explique, il dit que ces deux mitzvot qui sont dites ici dans ce verset, Shabtotai Tishmoru et Mikdashi Tirahu, elles ont été dites aussi, comme il dit, Beyachas Lesman Agalut Veashibut. Il dit une chose étrange, on parle de Moré Mikdash, craindre Mikdash. Il dit ce passage qui parle aussi de Galout, parle aussi du moment où il n'y a plus de Beit HaMikdash. Atzivouy sur le Shabbat vient nous enseigner que bien que la Menucha Shabbat, elle est à voir, elle a à voir, si vous voulez, avec la liberté, avec le chérout, parce que dans le Passouk, dans Sefer Dvarim, c'est écrit comme ça, « Zacharta ki eved haita beretz Mitzrayim, v'yotziacha Hashem Elokecha misham, al ken tzivcha Hashem Elokecha la'asot et yom ha-shabbat. » Souviens-toi du fait que tu as été éved en Égypte, qu'Hashem t'en a sorti, c'est la raison pour laquelle il t'ordonne de pratiquer le Shabbat. Donc on voit bien que le Shabbat a à voir, il est lié avec le chérout, avec la sortie d'Égypte, avec la liberté. Par conséquent, on pourrait penser que en Galout, il n'y a pas de Shabbat, puisqu'en Galout, on n'est plus dans le chérout. Néanmoins, le Passouk, dit le Sforno, vient nous dire Yesh lishmor Shabbat gam bimei ha-shibud. Il faut respecter le Shabbat même quand on est meshubad, même quand on est en galout et on est un peu esclave, en fait. Vatsivui sur Moré Mikdash, le passouk qui vient nous ordonner d'avoir de la yira pour le Beit HaMikdash, va le lamed à la chova l'inog le mora gam imkomot amkudashim begalut. Dainu bate knesiot bate midrashot. Ça vient nous dire que en galut aussi on doit respecter les lieux de kedusha, c'est-à-dire les synagogues et les bate midrash, les endroits où on étudie. Parce que ces endroits-là sont appelés Mikdash Me'at. Ce sont des petits Mikdash, des petits sanctuaires. Alors, d'après le Sforno, il dit ce Chidouche-là, alors on peut comprendre un peu mieux pourquoi effectivement ces deux mitzvot sont dites dans le grand contexte qui est Shemitah et Yovel. Parce que dans la parasha de la Torah, qu'on lira la semaine prochaine, Pasuk dit Az tirtze haaretz et shabtotea kol yemei hanshama. Kol yemei hanshama tishbot et asher lo shavta shabbatotechem le shabbatrem alea. Ça veut dire, alors la terre, elle obtiendra son Shabbat, c'est-à-dire pendant tout le temps où cette terre, vous ne serez pas là, parce que vous êtes en galoute, cette terre, elle pourra se reposer, et donc elle aura le repos dont vous l'avez privé parce que vous n'avez pas respecté le Shabbat de la terre. Ça, c'est ce qui est dit dans les Klalot qu'on va lire la semaine prochaine. Chazal disent là-dessus, c'est Be'avon Shmita V'Yovel, que c'est à cause des fautes, de la faute de ne pas avoir respecté Shmita et Yovel, Ba'a Galut La'olam. La Galut, les exils, viennent au monde parce qu'on n'a pas respecté les Shmitot et les Yovlot. Donc c'est assez logique si on peut parler comme ça. On est sur la terre. Il y a des règles qui nous disent comment on doit se comporter par rapport à la terre. Ces règles disent Shemitah et Yovel. Tu ne pratiques pas Shemitah et Yovel. Donc tu ne peux plus rester sur cette terre. La terre, elle te dit, tu ne peux rester chez moi que si tu me respectes. Tu ne me respectes pas. Tu ne me donnes pas ni Shemitah ni Yovel. Tu n'as pas de raison de rester ici. Et donc, Galut Leolam. Et puisque, d'après le Sforno, les deux parties du verset qui parlent des deux mitzvot de Shabbat et de Moré Mikdash parlent du Galut, alors on peut dire que justement la Torah, elle a juxtaposé ces deux mitzvot au parshiot, enfin au fait de parler de Shemitah et Yovel, pour nous enseigner que en fait, si on veut réparer, enfin que la réparation de Shmita et Yovel, c'est le galout. C'est aussi une façon de nous dire, parce que vous devez respecter ça et sachez ce qui va se passer si vous ne respectez pas. Alors, pourquoi exact, si on va un peu plus profondément là-dedans? Pourquoi effectivement c'est comme ça? C'est que, puisque Shemitah et Yovel, c'est un témoignage de ce que le monde est créé, qu'Hachem a créé le monde, et qu'il est gouverné, ce monde est gouverné par Hachem. Donc, le but de l'exercice, c'est que vous sachiez, Sheharetz Sheli, ou dit Hachem. Je veux que vous sachiez que la terre m'appartient. Donc, le droit de résidence sur cette terre-là, il est accordé sous condition. Quand les Israélites ont été mechalel, Shabbat Haaretz, Velo Kimu, ils n'ont pas accompli les mitzvot de Shemitah et Yovel, ils ont mérité le galout. Donc c'est pour ça que la Torah a juxtaposé ces deux versets, enfin ces deux, pardon, c'est pas deux versets, c'est un verset avec ces deux mitzvot-là, qui parlent justement du galout. Donc ici, on voit très bien, d'après le Sforno, qu'il existe que la Torah a envisagé Shabbat et Moré Mikdash, mais dans une situation où on n'est pas en Eretz Israël, on n'a donc pas de Mikdash, et on pourrait se dire, bah, évidemment, qu'il n'y a pas de Mitzvah de Moré Mikdash, puisqu'il n'y a pas de Mikdash. Pas du tout. Les synagogues, les Batei Midrashot, les endroits où on étudie, on prie, c'est le Beit HaMikdash en petit. Et par conséquent, on a l'obligation de le respecter, c'est-à-dire de le craindre, de le traiter avec Yira. Et le Shabbat aussi. Il y a un Shabbat, même en Galout, bien que le Shabbat soit lié, clairement, avec le verset qu'on a lu dans le Dvarim, le verset qui dit que Hachem dit « Je vous ai sorti de Mitzrayim, c'est pour ça que je vous ordonne de faire Shabbat. Donc on doit réfléchir sur l'accomplissement de ces mitzvot qui sont Shabbat et Moré Mikdash, puisque c'est une façon de témoigner de notre confiance en Hachem, que nous avons confiance que c'est Hachem qui gouverne le monde qu'il a créé, et qui renouvelle en permanence ce monde, en fait. C'est pour ça que ces deux mitzvot sont des mitzvot très importantes. Shmirat Shabbat, tout le monde sait, effectivement, que comme il sait, important. Donc, il faut prendre le Shabbat aussi comme quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est pas du tout pour être triste, hein, mais sérieux. Et comme il faut aussi être sérieux par rapport aux synagogues et au Bate Midrash. À ce moment-là, c'est ça qui peut permettre que on retrouve la situation où on peut pratiquer Moré Mikdash avec le Bet Hamikdash et les Shabbatot dans la liberté. Alors, maintenant, on va regarder d'un peu plus près ce que dit le Mesher Chochma sur la différence entre la Shemitah et le Yovel. Je répète, la Shemitah, c'est l'année sabbatique. C'est une année durant laquelle on ne peut pas travailler la terre du tout. Et donc, on doit se consacrer à autre chose. C'est clair, hein. Il ne s'agit pas du tout de dire tu ne travailles pas la terre, mais tu ne fais rien. La raison pour laquelle on travaille pas la terre, c'est pour oublier que effectivement, c'est Hachem qui a créé le monde et qui le dirige, mais aussi, c'est la même chose en fait, mais pour montrer que on a des choses à faire. On a toute une année qu'on peut consacrer a priori à l'étude ou enfin faire certaines mitzvot qu'on a peut-être moins le temps de faire en temps normal. Alors, le Mesher Chochma, il amène plusieurs explications. Je voulais voir avec vous l'explication qui est basée sur ce qui est dit dans Torah de Kohanim, c'est-à-dire le Midrash Halakha sur Vaikra. Sur le pasouk qui dit Shabbat l'Hashem, que la Shemitah c'est un Shabbat pour Hashem. Et il explique que Shem, c'est Nehemar be Shabbat Bereshit, que c'est Shabbat l'Hashem. Comme le Shabbat, au sens habituel du terme, Shabbat Bereshit, c'est un Shabbat pour Hachem, bien sûr. Ici aussi, cette septième année est appelée aussi Shabbat l'Hachem. Le Ramban, si on regarde, il dit la chose suivante. Le Rambam dit quelque chose qui est un peu chidouchique, quoi, si vous voulez. Sur Shabbat l'Hashem, il dit le Shem Hashem, que Shem Shenemar be Shabbat Bereshit. La Chambre Rashi, donc c'est Rambam qui dit, il cite Rashi, Verabotenu lokach nitkavnu be Midrasham. Et il dit, mais nos maîtres ne pensaient pas comme ça dans leur midrashim. Kikol la Shabbatot, gam ha-moadim, le Shem Hashem. Parce que tous les Shabbatot et aussi les Yamim Tovim, les Moadim, sont le Shem Hashem. Velo yomar be'echad mehem l'Hashem. Et pourtant, ce n'est pas marqué l'Hashem. Aval pirush Shabbat l'Hashem. Ça veut dire Elokecha amur be Shabbat bereshit. Hashem Elokecha, c'est celui dont on parle dans Shabbat bereshit, qui c'est marqué qui va Shabbat vaynafash. C'est ce jour où Hashem a fait Shabbat vaynafash et il s'est reposé. Valken lota sekol melacha. C'est pour cette raison que toi non plus tu feras pas de travail. Le kach amru chazal, qui ken neemar beshmita. Donc c'est pour ça que Chazal ont lu qu'il en va de même pour la shmita, qui shvit bashanim, parce que c'est un shabbat, c'est une septième année, en fait. Mais c'est toujours le chiffre 7 qui est important ici. Veine bekan oru otanu besod gadol isolod ha Torah. Et là, on nous a dit quelque chose de très important dans les secrets de la Torah, c'est-à-dire l'importance du chiffre 7, en tout cas, disons comme ça. Alors, le Meshe Chochma, il ramène, il cite le Ramban. Oulam, toutefois, dit Ramban, dit le Meshe Chochma, la niud da'ati nire, moi il me semble, de dinar atila shmuinan. Ça vient nous dire quelque chose de halachique. Le comment de Kdushat Shabbat, Chalouka Mikdushat Yom Tov, ça vient dire la chose suivante. On en a un peu déjà parlé. La Kdushat Shabbat et la Kdushat Yom Tov sont deux Kdushot complètement différentes. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit tout récemment encore. Shabbat, c'est quelque chose de fixe. Tous les sept jours, ça revient. Yom Tov, au contraire, c'est Israël qui est Mekadesh le Yom Tov. Vous vous souvenez, on a dit ça. Que Israël est Mekadesh le nouveau mois, et donc il est Mekadesh tous les Moadim. Il sanctifie. Donc les Moadim, ils sont sanctifiés par les hommes, par Israël. Et le Shabbat, Israël ne détermine rien du tout dans le Shabbat. Le Shabbat, il revient tout seul. Et quand on dit que ce sont les Chachamim qui décident du Yom Tov, eh ben, ils sont vraiment souverains puisqu'ils peuvent bouger le début du mois si ça les arrange. Par exemple, ils peuvent le retarder effectivement d'un jour. Alors que Shabbat, personne ne peut rien faire. Shabbat, c'est Shabbat. Alors, de la même manière qu'il y a cette différence entre Shabbat et Yom Tov, il y a la même différence entre Shemitah et Yovel. La Shemitah, c'est comme Shabbat, et le Yovel, c'est comme Yom Tov. Les lois sont les mêmes, comme les lois de Yom Tov sont quasiment les mêmes que celles de Shabbat, sauf Ochel Nefesh. Seulement, la grande différence, donc il va de même, les lois interdisant tout travail de la terre pendant l'année sabbatique, et ces lois, elles s'appliquent au Yovel aussi. Ça veut dire que quand il y a le Yovel, on a deux années consécutives a priori, bon, pas d'après tout le monde, mais deux années a priori consécutives dans lesquelles on ne travaille pas. Il y a la 49e année qui est la Shemitah, et puis la 50e année qui est Yovel. Donc ça, c'est encore un peu plus c'est spécial. Mais le Yovel, il dépend des hommes. Parce que le Yovel, au Yovel, on sonne du shofar, c'est marqué, Taviru shofar par Tsechem, vous allez faire sonner du shofar. Donc si on ne sonne pas le shofar, si on ne libère pas les esclaves, comme on doit les libérer à Yom Kippour, le Yom Kippour de Yovel, si les champs patrimoniaux ne reviennent pas à leurs propriétaires initiaux, alors mutar becharisha zriya ve'en yovel klal. Dans ce cas-là, il n'y a pas de yovel. Si nous ne pratiquons pas les lois du yovel, il n'y a pas de yovel. Ça s'est explicité dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Donc les lois spécifiques du Yovel, Si celles-là ne sont pas respectées, il n'y a pas d'Yovel. Donc ça dépend beaucoup donc des Bnei Israël. De la même manière que si les Bnei Israël ne sont pas Mekadesh le mois, ben le mois ne commence pas. Je vous ai dit, a priori, on a été Mekadesh les mois jusqu'à l'an 6000. Si le Mashiach ne vient pas d'ici là, ben, il y aura plus de, a priori, il y a plus de calendrier, il y a plus de mois, donc il y a ni Pessah, ni Shavuot, ni Sukkot, ni Rosh Hashanah, ni Kippour, il n'y aura que Shabbat. Bon, alors, pour la plupart d'entre vous, vous serez plus là après l'an 6000, donc, ça ne vous concerne pas directement, mais théoriquement, c'est comme ça. Donc là aussi, c'est dit le chef Orma, l'important, c'est de voir que c'est exactement structuré comme la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est la différence entre la Shemitah et le Yovel. Et le Rambam, il est pour ça que ça aussi la halakha. Par contre, la Shemitah, c'est Kadosh Be'atzmuto, ça veut dire c'est Kadosh, toute septième année est année de Shemitah. Que ça nous plaise ou pas. On n'a pas de moyen. C'est un décret divin auquel on ne peut pas se soustraire. Ça dépend en rien de la Kedusha d'Israël. C'est pour ça que sur la Shemitah, sur Shemit, il est dit Shabbat Lachem. Parce que, effectivement, c'est comme le Shabbat. Et donc, même si on n'avait pas compté les années, on n'a pas compté première année, deuxième année, sixième année, septième année de Shemitah, et même si on n'a pas fait Shemitah, on n'a pas pratiqué, on a barricadé, enfin on a laissé des barrières sur les champs, etc., même si effectivement on a mis des pierres pour que les gens ne puissent pas entrer, malgré tout, le champ est efker et il est pas tout de maaser. C'est une décision d'Hachem. L'année sabbatique, on prélève pas les, il y a pas les prélèvements puisque les prélèvements, ils sont là pour que le propriétaire ressente que c'est pas lui le propriétaire. Alors on te dit, tu vas bien voir que t'es pas le propriétaire parce que dans ta récolte, tu vas devoir donner, disons, bon, c'est pas une obligation, mais tu vas donner un cinquantième, tu vas donner au Kohen. Ensuite, un dixième du reste, tu vas donner au Lévi. Et ensuite, un troisième, de nouveau un dixième, tu vas donner selon les années, ou bien aux pauvres, ou bien tu dois aller le manger à Yerushalayim. Donc, pour que tu sentes bien, après, tu es propriétaire. Mais donc, même si on la pratique pas, si même si le bonhomme il a barricadé son champ pour qu'on puisse pas venir manger, néanmoins, il peut, s'il mange son champ, il mange les fruits, il n'a pas l'obligation de donner le maaser. Il n'a pas de maaser. Ça, c'est donc la grande différence. Donc, la Shemitah, elle fait référence, comme le Shabbat, au fait que le monde est renouvelé régulièrement, il est par Hachem qui le crée tout le temps. Et donc, c'est une façon de proclamer. Hachem proclame, Liaharetz. Je veux que vous reconnaissiez que la terre est à moi. Comme pour le Shabbat. Mais le Yovel, il vient montrer la libération des esclaves. C'est-à-dire, c'est un peu comme la sortie d'Égypte. Et comme Yom Tov, les Yom Tovim sont Zecher Yetziat Mitzrayim. Donc ici aussi, Le Yovel, c'est un Zecher Yetziat Mitzrayim par la libération de tous les esclaves. Alors, il dit ensuite, il y a des choses sur ce sujet, il y a des choses très profondes, derech haemet, c'est-à-dire en puis Kabbalah. Donc, on peut en trouver des traces dans le Zohar. Donc, bon, je vais pas maintenant regarder ça avec vous. Mais en réalité, ce qui est important, c'est de dire que quand on a dit que les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, on a dit Chamushim Yatsu Bnei Israël et Mitzrayim. Chamushim, ça veut dire armés. Ils sont sortis armés. Mais on lit Chamushim pour dire que c'est simplement un cinquième des gens qui sont sortis. Là, c'est le secret du chiffre 50, en fait. Quand on a dit que Shavuot, c'était le moment où, effectivement, on a reçu la Torah et que c'est Charut à la Luchot, c'est gravé sur les Luchot. On a dit Charut, c'est liberté, liberté mishibud, de tout esclavage, et Charut mimalach hamavet, c'est-à-dire on était libéré de l'ange de la mort, puisque comme vous savez, au moment où on a reçu la Torah, on est redevenu immortel, comme Adam l'était. Ça n'a pas tenu longtemps, puisque on est redevenu mortel après la faute du Vaudor. Et donc, en fait, puisque le Shabbat, il parle tout seul, en quelque sorte, il parle du renouvellement du monde en permanence, donc il n'a pas besoin d'un kiddush du Bedin, il n'a pas besoin que le Sanhedrin dise « Mekoudash », le déclare « Mekoudash ». Par contre, alors c'est pour ça que la Shemitah, elle n'a pas besoin d'une quelconque déclaration. C'est Shemitah, c'est qu'on la pratique ou pas, de la même manière que tu fasses Kiddush ou que tu ne fasses pas Kiddush, le Shabbat, il est là. Tu as une mitzvah d'être Mekadesh, mais même si tu ne fais pas Kiddush, le Shabbat est là quand même. Donc, vous voyez ici, c'est une chose très importante, cette différence qu'il y a entre Shabbat et le Yovel, entre la Shemitah et le Yovel, pardon, à la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov. Alors, pour revenir sur cette chose très importante de Shabbat Lachem, la Gemara dans Sanhedrin sur les psukim que je vous ai lus, Shesh Shanim Tizrak Sadech, pendant 6 ans tu vas ensemencer ton champ et tu vas élaguer ta vigne, etc. Tu récolteras. Et puis, tout à la fin, comme on a vu, Chaptotai Tishmoru Migdashi Tirahu Ani Hashem. Alors, la Gemara dans Sanhedrin, elle demande Maïta Ma de Shviata, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné l'ordre de la Shemitah? Alors la Gemara répond, Amar Kadosh Baruch Hu l'Israël, semez pendant 6 ans, et la 7e, abstenez-vous de semer. Kedesh était doux, Shaharez Sheli, afin que vous sachiez que la terre m'appartient. Donc, quand quelqu'un il est propriétaire d'un terrain, il fait ce qu'il veut. Il sème l'année où il veut semer. S'il veut laisser une année en friche, il le laisse en friche. Ici, la Torah, elle te dit non. Certains midrashim disent que les gens ont l'habitude de semer 2 années de suite, puis ensuite de faire 1 année en friche, et puis de recommencer comme ça. 2 ans, 1 an. Et Akadosh Baruch Hu, je pense que c'est un vrai midrash, qui dit, Akadosh Baruch Hu dit, pendant 6 ans, tu sèmes. Et après, moi, je te dis, tu sèmes pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il faut que tu sèmes, tu fonctionnes normalement. Et puis, la 7e année, non. Pourquoi? Parce que ce rythme de 6 et 1, c'est le rythme qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de mettre dans le monde. C'est le fameux sod, secret du chiffre 7, en fait. Al-Khazal rapporte que, enfin, dans la Torah, c'est marqué, et si tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on va manger? On n'a pas semé la 7e année, qu'est-ce qu'on va manger? Si tu demandes, alors, vetsiviti et birchati, alors j'enverrai ma bracha, et il y aura une année d'abondance, la 6e année, enfin, il y aura de l'abondance, la 6e année, de telle sorte que tu aies à manger pour la 6e, pour la 7e, et même pour le début de la 8e, jusqu'à ce que ça, ce que tu auras semé dans la 8e est pris et te donne de ton blé, quoi. Alors évidemment, tout le monde pose la question, qu'est-ce que ça veut dire si tu demandes, alors j'enverrai ma bracha. On entend que si tu ne demandes pas, je n'enverrai pas ma bracha. On a l'impression, quoi. Ça veut dire, j'enverrai la bracha pour les gens qui demandent, ceux qui ne me font pas vraiment confiance, eux, je leur enverrai une bracha. Il y aura l'abondance. Ceux qui ne demandent rien, je n'enverrai pas ma bracha. Évidemment, ce n'est pas comme ça, mais ça vient dire la chose suivante. Il y a deux façons d'être rassasié, si vous voulez. C'est de manger de manger en quantité, on peut dire, et ou bien c'est de manger en qualité, c'est-à-dire d'avoir une nourriture qui rassasie, bon, qui fait que le corps est rassasié avec cette nourriture-là. C'est ça qui est dit. Si tu ne me fais pas confiance, que tu penses que tu auras un problème, alors bon, je t'enverrai en calcula en quantité. Et si tu ne me poses pas de questions, ça veut dire que tu me fais confiance. Ça veut dire qu'il y aura une bracha, cette bracha c'est toujours l'amplification, une bracha de la nourriture. Tu auras très peu de nourriture, mais ça suffira pour te rassasier complètement. Et c'est ça la vraie bracha. La vraie bracha, c'est que tu n'as pas besoin de demander. Bon, si tu me fais confiance, alors c'est comme si on disait, si tu me fais confiance, il y aura une transformation éventuellement dans ton corps qui va transformer la nourriture d'une autre manière, de telle sorte que tu sois rassasié. Avec peu de nourriture, parce que tu en auras peu, puisque je n'en donnerai pas plus, pas visiblement plus, donc, tu auras une nourriture qui sera, et du coup, ça veut dire que ça sera au coup par coup, quoi. Si quelqu'un demande, alors c'est à titre personnel, il y aura pour toi. Et il y aura plus. Si tu ne demandes pas, le tzadik à côté qui ne demande pas, lui, il aura la bracha d'une autre manière, c'est-à-dire il sera rassasié, comme on dit que quand les Kohanim, vous savez, tous les Shabbatot, on mettait des pains, 12 pains sur le Shulchan. Sur la table, on mettait 12 pains qu'on avait préparés. Et Shabbat, on enlevait les 12 pains de la semaine de la dernière semaine et on les remplaçait par des nouveaux pains qui allaient rester une semaine. Et quand on enlevait ces nouveaux pains, alors c'est les Kohanim qui étaient en service qui vont les manger, ces pains. Et bon, alors, il y avait toujours un miracle parce que c'était complètement frais, etc., après 8 jours, enfin une semaine, quoi, plutôt. Et on dit que chacun, bon, comme ils étaient pas mal de Kohanim, il n'y avait jamais que 12 pains, c'était pas beaucoup. Chacun recevait la grosseur d'un haricot quasiment de ce pain. Mais seulement ils étaient rassasiés avec ça. C'était le pain qui était sur le choukhan, qui a été fabriqué selon les règles, etc. Il était rassasiant. C'était comme tout ce qui se passait dans le Betamigdash, il y a toujours une dimension miraculeuse pour bien montrer la présence d'Hachem dans le monde, en particulier dans le Migdash, qui est l'endroit où on fait les choses pour que tout aille bien dans le monde, en quelque sorte. Et donc, là aussi, si tu ne demandes pas, tu recevras, tu seras rassasié, mais par la quantité et par la qualité de ce que tu vas manger. Donc, je dis, il est très possible d'entendre ici que c'est pas que je t'enverrai une nourriture différente, mais que toi, avec ta confiance en Hachem, tu te changes. Donc, tout chez toi va changer. Et donc, ton corps va être capable de se rassasier, enfin, de faire en sorte qu'il y ait, à partir d'une nourriture minimale, tout ce dont tu as besoin, tout ce dont ton corps a besoin pour fonctionner. Peut-être que Hachem faisait un miracle dans les récoltes à ce moment-là, peut-être, mais moi, je préfère penser que c'est l'homme lui-même qui se change par sa émouna, en fait. On sait très bien que c'est psychosomatique, je veux dire, c'est sûr qu'il y a un impact sur le fonctionnement du corps, du fonctionnement du cerveau, si vous voulez, même du cœur, mais le cœur étant là.
On peut dire la même chose de la manne.
Avec la manne, c'est sûr que la manne, effectivement, c'était une nourriture. Mais justement, le problème, c'est qu'il y avait avec la manne, c'est que les gens, ils étaient rassasiés,
Oui.
mais si vous voulez, ils n'avaient pas ce sentiment d'être rassasiés. Ils n'avaient pas ce sentiment d'avoir le ventre plein, si vous voulez. C'est ce qu'ils ont dit, c'est un lechem akulokel. Et que lequel c'est cal-cal, ça veut dire super léger. Parce qu'il n'y avait pas non plus de lest, il n'y avait pas de déchets. Et donc il disait, donc on ne se sent pas vraiment exister, quoi. Donc ils ont dit du mal de la manne. Alors est-ce que, ça je ne sais pas, si quand on mangeait de ce fameux pain-là, est-ce qu'on avait aussi le sentiment d'être. Voilà, physiquement de sentir quelque chose que on a le ventre plein, quoi, ou bien c'est simplement qu'on était rassasié au sens où on n'avait pas faim, on n'a pas besoin de manger, mais est-ce qu'il fallait vivre avec cette idée que j'ai pas besoin de ressentir que je suis plein pour être rassasié? C'est pas obligé en français, rassasié. Est-ce qu'on peut dire qu'on est rassasié si on a tout ce dont on a besoin? Mais est-ce qu'ils avaient encore faim? Est-ce que la faim, elle vient de ce que je ne me sens pas exister suffisamment? C'est ça la faim? Je sais pas. Réfléchir à ça, je ne sais pas. C'est bien.